Bon, et bien d'abord, merci Simon pour cette présentation. Merci à Salvador, à Philippe et à toute l'équipe de m'avoir invité. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'être face à vous. C'est un petit peu intimidant parce que vous êtes nombreux. En séminaire, en général, je me retrouve devant moins de personnes, mais ça me fait d'autant plus plaisir. Ça a été dit hein, par Simon, c'est vrai que moi, depuis quelques années, je travaille sur des partis politiques qui sont bien ancrés à gauche, hein, Podemos, la France Insoumise, les Belges, vous les connaissez peut-être un petit peu moins, mais le Parti du Travail de Belgique, c'est d'anciens maoïstes, mais qui grosso modo ont un programme politique similaire à celui des Insoumis et de Podemos. Donc voilà, je m'occupe de choses, d'objets, on va dire, contestataires, mais malgré tout, qui jouent le jeu institutionnel, qui jouent le jeu des élections, le jeu des partis. Et en fait, avant ça, j'ai travaillé, dans le cadre de ma thèse, sur des mouvements sociaux, donc là, des engagements extra-partisans, notamment des engagements altermondialistes, écologistes, mais avec donc une forme d'action particulière qui était la désobéissance civile, c'est-à-dire des actions collectives, bien sûr, mais surtout des actions illégal, désobéir, hein, c'est-à-dire par exemple les faucheurs d'OGM, hein, couper des épis de maïs transgéniques, et des actions, c'est le premier critère, c'est l'illégalité, on parle de désobéissance, mais aussi des actions non violentes. Voilà, c'est toujours, ça reste dans le cadre du respect des adversaires, de leur intégrité physique, de leur intégrité morale. Et donc, au cours de ma thèse, si vous voulez, ce que j'ai fait, c'est que d'un côté, j'ai mené une observation participante pendant 2 ans au sein d'un de ces collectifs, hein, on va dire écologistes, altermondialistes, désobéissants, qui était en fait une espèce de scission de Greenpeace, des gens qui avaient quitté Greenpeace parce qu'ils trouvaient l'ONG un petit peu trop modérée, et donc qui avaient créé leur propre collectif. Donc, pendant 2 ans, j'ai suivi, participé à la vie quotidienne de ce collectif, un travail donc de sociologue, et en même temps, j'ai mené un travail de philosophie politique, c'est-à-dire très concrètement, je me suis enfermé dans une bibliothèque, j'ai pris tout les écrits qui étaient disponibles de Henry David Thoreau, donc ce citoyen américain du 19e siècle qui a écrit ce fameux discours sur la désobéissance civile, donc les écrits de Henry David Thoreau, de Gandhi et de Martin Luther King. Et voilà, j'ai pris ces personnes qu'on connaît, alors surtout Gandhi et Martin Luther King, comme des leaders de grands mouvements historiques, antiségrégationnistes ou anticoloniaux. Moi, je les ai pris comme des penseurs politiques, comme des philosophes, pour essayer d'aller voir quelle était la vision de la politique, de la démocratie qui se dégageait de leurs actions. Et donc voilà, j'ai essayé aussi de nouer ce travail de sociologue dont je parlais d'un côté, et de philosophe politique. Je regarde Philippe Chagnal en disant ça parce qu'il est l'auteur d'un très bel ouvrage qui retrace en partie l'histoire de la discipline sociologique en montrant comment celle-ci, dans ce qu'elle a pu produire de plus intéressant, était toujours étroitement imbriquée, en tout cas en relation vraiment voilà, forte avec la philosophie politique. Donc il n'y a pas d'un côté l'étude empirique des faits et de l'autre une réflexion désincarnée, abstraite et normative. Il y a une forme d'échange, d'alimentation mutuelle entre ces deux disciplines qui aujourd'hui fonctionnent de manière, ça c'est vrai, il faut l'admettre, de manière relativement séparée, mais qu'un certain nombre de chercheurs et de chercheuses essayent quand même toujours de nouer à travers leurs travaux. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que je vais essayer, auquel je vais essayer de me tenir pendant l'heure et demie qui m'est attribuée, puisque mon propos va donc s'organiser en 2 temps. Hein. D'abord, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de comprendre comment a évolué en France au cours des 3-4 dernières décennies, mais en fait on pourrait même remonter au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce que les sociologues, les historiens aussi, hein, Charles Tilly pour ceux à qui ça parle, appellent le répertoire d'action collective. Donc qu'est-ce que c'est un répertoire d'action collective? C'est tout simplement l'idée de Charles Tilly, hein, cet historien américain des mouvements sociaux, notamment français, c'est que à chaque époque de l'histoire, les militants contestataires ont à leur disposition un répertoire limité de moyens d'action possibles. Alors, on ne peut pas tout faire n'importe quand. Il y a certains modes d'action qui, à un certain moment, s'imposent comme les modes d'action les plus courants, les plus légitimes, les plus faciles à mobiliser. Alors, voilà, par exemple, à la fin du Moyen-Âge, ça va être la jacquerie paysanne. Au XIXe siècle, c'est... la manifestation qui va devenir le répertoire d'action phare, en tout cas pour ce qui est de la France. Ensuite, au XXe siècle, ça va devenir la grève. Et donc, ça évolue comme ça, les répertoires d'action. C'est une métaphore chez Tilly, cette idée de répertoire d'action contestataire. Ça vient d'une métaphore musicale. Il dit, si vous voulez, quand vous êtes un contestataire, vous êtes comme un pianiste qui arrive face à son piano et qui a face à lui, bah, effectivement, un répertoire. Et il peut jouer seulement les partitions qui va là face à lui. Il ne peut pas jouer d'autres partitions. Effectivement, au XXe siècle, ça n'a pas grand sens de faire une jacquerie paysanne, et au XVIe siècle, bah, il n'y avait pas de grève ouvrière. Enfin voilà, je force un petit peu le trait, mais c'est ça l'idée de Tilly. Et donc moi, ce que je voudrais faire dans la première partie peut-être de mon propos, c'est étudier l'évolution du répertoire français au cours des dernières décennies pour montrer qu'il y a eu un double mouvement. D'un côté, essoufflement, pas disparition, mais d'essoufflement des actions contestataires qu'on appelle conventionnelles, traditionnelles, ou moi que j'appelle légales, un essoufflement de la contestation légale. Donc qu'est-ce que c'est les moyens légaux de contester? Très simplement, c'est soit voter pour un parti d'opposition, soit vous syndiquer, soit faire grève, soit manifester. Alors, il y a d'autres formes possibles, mais c'est ça les principales formes de contestation légale. J'aimerais montrer qu'elles se sont relativement essoufflées depuis les années 70. Et alors, si on s'en tient à cette partie du constat, on va dire, du coup, ça veut dire qu'il y a une baisse de la conflictualité sociale, qu'il y a une pacification de la société. Mais c'est pas mon hypothèse. Moi, l'hypothèse que je défends, c'est qu'en fait, en même temps qu'il y a cet essoufflement de la contestation légale, on voit une montée en puissance de la contestation extra-légale. Alors, je préfère le terme extra-légal plutôt qu'illégal, je pinaille un peu, mais j'expliquerai tout à l'heure pourquoi ça a du sens pour moi de parler d'extra-légalité plutôt que d'illégalité. Et pour mettre tout de suite du concret là-dedans, ce que j'appelle la contestation donc extra-légale, ça va être, alors, au premier chef, ce sur quoi vraiment moi je me suis spécialisé pendant ma thèse, c'est-à-dire les actions de désobéissance civile du type des faucheurs d'OGM, de José Bové, effectivement, qui vont aller faucher des épis de maïs transgéniques, mais aussi si vous pensez à peu près aux mêmes personnes ou à la Confédération paysanne, démonter le McDonald's comme ça a été fait à Millau en 1999. Ou peut-être plus proche de nous, vous pouvez penser aux actions des fémènes qui vont se dénuder en escaladant les balcons de l'hôtel de ville, ou aux actions du collectif du réseau Éducation sans frontières, où vous avez des citoyennes et des citoyens qui vont protéger, cacher, accompagner des enfants sans papier et leur famille, alors que c'est là aussi, à nouveau, toutes ces actions, elles se font en violation de la loi. Donc, je vais parler de la désobéissance civile, mais quand je dis qu'il y a une montée de la contestation extra-légale, c'est plus large que ça, et j'y reviendrai en détail. Là, je vous les cite un peu comme ça, pêle-mêle, mais je pense aussi aux zones à défendre, je pense à l'activisme hacker en ligne, je pense aussi au cortège de tête, qui a fait son apparition, ou a refait son apparition, en tout cas a connu un saut quantitatif lors des manifestations contre la loi El Khomri, et enfin aussi aux lanceurs d'alerte, parce que même s'il y a une tentative d'encadrer et de protéger juridiquement l'action des lanceurs d'alerte, je vous montrerai que encore une grande partie aujourd'hui des lanceurs d'alerte, quand ils lancent leur alerte, eh bien ils sont obligés de le faire à nouveau en violation de certaines lois. Donc ça, ce sera la première partie de mon propos. Et donc voilà, on sera peut-être plutôt à un plan un peu sociologique, socio-historique. Et dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on s'interroge sur la légitimité de ces actions extra-légales. Puisque justement, si elle pose bien une question aux philosophes politiques, mais en fait pas qu'aux philosophes politiques, à n'importe lequel ou laquelle d'entre nous, c'est bien la question de leur légitimité. Et donc j'expliquerai un petit peu comment on peut envisager cette question-là. Alors, je m'attarderai, je vais commencer tout de suite hein, sur l'évolution du répertoire d'action. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est surtout des choses... Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de regrouper un petit peu... Voilà, il y a des spécialistes de la grève, des spécialistes du syndicalisme, des spécialistes des manifestations, etc. Moi, je suis allé lire un petit peu tous ces travaux faits par des historiens des mouvements sociaux, des sociologues de l'action collective. J'ai essayé de compiler tout ça c'est un travail de seconde main, si vous voulez, pour essayer de dégager une tendance. Alors, il s'agit bien de tendances, hein, les tendances, tout ça, c'est toujours réversible aussi, c'est des choses assez fragiles, mais quelle tendance est-ce qu'on peut dégager ? Sur donc les modes de contestation légale. Le vote protestataire, je rappellerai juste rapidement hein, que du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la veille de l'élection de Mitterrand, le Parti communiste français fait systématiquement à chaque élection nationale entre 19 et 27% des voix. Donc c'est un parti qui représente hein, clairement un quart de l'électorat, qui est souvent devant le Parti socialiste. Donc on a un vote protestataire fort, et alors il n'y a pas besoin de reprendre toutes les présidentielles depuis Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, mais si vous le faites, vous verrez que vous avez un déclin progressif, mais un déclin du vote pour l'extrême gauche, qu'elle soit communiste ou trotskiste. Déclin qui fait parfois vous avez des petits sursauts liés notamment à des candidatures un peu charismatiques comme celle d'Arlette Laguiller, Olivier Besancenot ou Jean-Luc Mélenchon, mais voilà, vous avez un vrai déclin du vote protestataire. Alors il y a certains sociologues, notamment en sociologie électorale, qui soutiennent qu'en réalité le vote protestataire n'aurait pas disparu mais serait passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, que en fait la critique du patronat aurait laissé place à la haine de l'immigré, voilà, que les ouvriers seraient passés de la CGT, du Parti communiste au Front National, et donc qu'en fait il existerait toujours un vote contestataire, donc une contestation comme ça par les urnes, mais que simplement voilà, elle serait passée d'un extrême à l'autre de l'échiquier politique. Moi, c'est une thèse que je conteste, enfin que c'est pas moi qui la conteste, hein, c'est que voilà, y a à nouveau d'autres sociologues, il y a un vrai débat en fait au sein de la sociologie électorale, où je schématise un peu, mais cette thèse, elle a parfois été synthétisée sous le syntagme de ouvriéro-lepénisme, et elle a été contestée en fait dans des travaux assez sérieux aussi, donc, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, mais qui montrent qu'en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez très très peu de transferts directs de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ce qui s'est passé, ce à quoi on assiste depuis, on va dire, le milieu des années 80, c'est au fait que les électeurs ouvriers, socialistes ou communistes, se réfugient de plus en plus dans l'abstention. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et en même temps, vous avez un deuxième mouvement, c'est que les électeurs qui votaient traditionnellement pour la droite, RPR, UMP, Républicains, etc., se sont radicalisés vers l'extrême droite, sont passés en gros de Chirac à Le Pen, pour dire les choses très très rapidement. Et ces deux mouvements en parallèle, si vous voulez, ça fait que mécaniquement, effectivement, quand on regarde les scores, on a de plus en plus, aux européennes, aux législatives, 30% des ouvriers qui votent pour le Front National. Mais en fait, ce n'est pas 30% des ouvriers qui votent pour le Front National, c'est ça qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est 30% des ouvriers qui votent, des ouvriers qui s'expriment, qui votent pour le Front National. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous prenez en compte l'abstention et la non-inscription sur les listes électorales, qui est aussi un phénomène représenté parmi les ouvriers, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on observe ? On observe qu'il y a seulement 55%, ou plutôt il y a 55% des ouvriers qui ne votent pas, et donc en fait, si vous faites une petite règle de 3, il n'y a donc pas 30% des ouvriers qui votent pour le Front National, mais à peine 13 ou 14%, et ça fait que les ouvriers ne votent pas plus Front National que les autres catégories socio-professionnelles de la population, ou en tout cas très légèrement au-dessus des autres catégories. Voilà, ça c'était le premier point. La grève, pour savoir comment ça a évolué depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a quelque chose, il y a un indicateur, alors il y en aurait d'autres, mais il y a un indicateur qui est intéressant, c'est que le ministère du Travail, par l'intermédiaire d'un de ses organismes, hein, la DARES, mesure chaque année, c'est les inspecteurs du travail qui sont chargés de mesurer ça, ce qu'ils appellent les JINT, donc J-I-N-T, les journées individuelles non travaillées. Et donc, on a un recensement annuel du nombre de jours de grève total. En 1960, vous aviez 3,5 millions de journées de grève par an. En 1985, vous avez plus qu'un million de journées de grève par an. Et en 2010, vous en avez plus que 300 000. Donc voilà, on a divisé par 10 le nombre de grèves annuelles en France. Alors évidemment, et donc c'est vraiment à nouveau une courbe, hein, bon, je n'ai pas amené de schéma de PowerPoint, mais vous vous la représentez mentalement. C'est une chute là pour le coup drastique, avec des exceptions, les années de grand mouvement social en 95, en 2003. Là, vous avez des pics, évidemment, liés aux mobilisations des cheminots, des enseignants, etc. Mais sinon, la baisse, elle est tendancielle et elle est massive. Quelque chose qui est lié à ça, hein, c'est le syndicalisme. Le syndicalisme aussi, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 50% des travailleurs français, travailleurs et travailleuses sont syndiqués. En 1970, on est 25% et aujourd'hui, on est à 7 ou 8%. Voilà. Alors, il y a beaucoup de travaux, hein, à nouveau, sur la crise du syndicalisme, des travaux sur lesquels je m'appuie, qui essayent de comprendre cet affaissement du syndicalisme français. Je vais pas... Il y a beaucoup, beaucoup de raisons qui sont avancées. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On pourra y revenir si vous voulez. Je vais juste passer au quatrième et dernier mode de contestation légale, c'est la manifestation. Alors là, la manifestation, c'est intéressant parce que contrairement à la grève, au vote protestataire et au syndicalisme, si on regarde les choses d'un point de vue purement quantitatif ou numérique, pour les trois précédents modes d'action, je vous disais, il y a vraiment une chute, voilà, c'est des chiffres, on les constate, c'est simple. La manifestation, c'est l'inverse. Entre 2000 et 2010, en France, vous avez eu un doublement nombre de manifestations. Il y a aussi une question qui est régulièrement posée, notamment par le CEVIPOF, le labo de sciences politiques lié à l'Institut d'études politiques de Paris, qui fait des grandes batteries comme ça de questions qu'ils posent à 20, 25 000 personnes. Ils font ça chaque année, ils font ça depuis des décennies, donc c'est intéressant, ça permet de mesurer aussi ces grandes tendances. Et quand on demande aux gens « Est-ce que vous avez déjà participé à une manifestation ?» Ben à nouveau, alors je ne vous donne pas les chiffres, mais ça, de plus en plus, effectivement, de Français participent à des manifestations. Et il y a une question aussi qu'on pose depuis longtemps, c'est « Est-ce que vous seriez prêt à participer à une manifestation ?» C'est une question qu'on pose à des gens qui répondent qu'ils n'y ont pas participé. Et là aussi, le nombre de gens qui seraient prêts à participer a augmenté. Donc, d'un point de vue purement numérique, la manifestation, il semble là y avoir un intérêt croissant pour ce mode d'action. Pourquoi est-ce que malgré tout je considère qu'il y a un essoufflement ? Parce que je pense qu'il faut poser un regard qualitatif aussi sur la manifestation et se rendre compte qu'elle a perdu le côté subversif qui était le sien, bah, notamment au XIXe siècle, hein, quand on manifestait, c'était des manifestations sauvages, c'est-à-dire illégales. Manifester, c'était un signe de crise politique, hein, c'était vraiment une façon de contester les élites. Et aujourd'hui, les manifestations sont des types d'actions qui se sont routinisées, qui sont vraiment rentrées un peu dans le rituel, on va dire, militant. Si vous êtes parisien, vous faites Bastille, Répu, Nation, vous avez le Triangle. C'est des choses qui sont encadrées par les services d'ordre, des organisations syndicales surtout, partisanes aussi, mais qui, en plus d'être encadrées par les services d'ordre des organisations qui appellent à la manifestation, c'est encadré et autorisé par les forces préfectorales. Donc on est rentré dans un mode d'action qui je crois n'est plus a perdu de la charge contestatrice frontale qu'elle avait pu avoir par le passé. Et en parallèle donc de cet essoufflement de la contestation légale, je disais ne pas s'en tenir là parce que si on s'en tient là, on a l'impression effectivement voilà que la société s'est pacifiée, qu'il y a moins en moins de conflits. Mais justement, ce qu'on voit en parallèle, c'est le développement alors des zones à défendre, hein, d'abord là-dessus j'ai pas besoin de vous dresser un portrait, je pense que vous voyez assez bien ce qui se passe pas si loin d'ici à Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes aussi au courant de la ZAD qui a conduit c'est pas la ZAD qui a conduit, c'est plutôt la répression des zadistes, mais qui a conduit à la mort de Rémi Fraisse, testé il y a 4 ans de cela. Vous avez une ZAD aussi à Décines contre, il me semble, un projet de stade de foot à côté de Lyon. Vous avez une ZAD à Roibon contre un Center Park. Et j'ai trouvé une carte interactive de France Info il y a 2 ans sur Internet qui recensait 104 lieu en France où des embryons justement de ZAD, alors l'acronyme peut être discuté, mais voilà, des embryons de ZAD avaient émergé. Et donc voilà, ça c'est quelque chose effectivement qu'on voit apparaître ou réapparaître, hein, puisque s'il fallait dresser une histoire de ce type d'action, on pourrait remonter effectivement au Larzac, on pourrait faire un parallèle aussi entre ces occupations, les ZAD qui sont des occupations en milieu rural, mais qui partagent un certain nombre de traits avec les squats, que ce soit des squats politiques ou des squats culturels, qui elles sont des occupations pour le coup en milieu urbain, mais voilà, il y a un certain nombre de références partagées. Et donc toutes ces occupations, j'aurais dû commencer par le préciser, c'est des occupations qui se font de manière la plupart du temps illégale. Parallèlement à ça, je citais le cas des lanceurs d'alerte. Alors pourquoi est-ce que je range les lanceurs d'alerte du côté de l'extralégalité ? Bien parce que la dernière loi qui a été passée en France, hein, en vue justement hein, de protéger un certain nombre de lanceurs d'alerte, la loi Sapin 2, elle protège uniquement un certain nombre de lanceurs d'alerte, ceux qui se mobilisent pour la santé et l'environnement. Si vous lancez des alertes sur un médicament, je ne sais pas, la dépakine ou ce genre de choses, vous pouvez être protégé. Bon, il y a tout un tas d'autres conditions, mais vous pouvez être protégé. Si vous lancez une alerte qui a trait à l'environnement, vous pouvez aussi être protégé. Mais si vous êtes Antoine Deltour et que votre alerte, elle concerne de l'évasion fiscale massive vers le Luxembourg, ou si vous êtes Edward Snowden et que votre alerte, elle concerne la surveillance des populations par des programmes d'agences étatiques, et bien là, par exemple, ça ne rentre pas dans le périmètre de la loi. Voilà. Vous n'êtes pas concerné par la loi Sapin 2, vous n'êtes absolument pas protégé. Donc si vous décidez de porter à la connaissance du public ce que vous avez pu observer dans le cadre de votre profession, comme le font d'ordinaire les lanceurs d'alerte, là vous n'êtes pas protégé. Il y a aussi ce que je mentionnais en termes d'activisme. Donc là, on peut penser à la pointe émergée de l'iceberg. Hein, ça va être par exemple ce que fait Wikileaks en mettant une plateforme en ligne qui permet de dévoiler tout un tas de documents, ce que font aussi les Anonymous qui vont pirater certains sites, par exemple en solidarité avec Notre-Dame-des-Landes, les Anonymous ont piraté le site internet de Vinci, y ont mis un communiqué de presse, donc un faux, sur la première page, et dans la journée, la cote en bourse de Vinci a perdu 4%. Donc voilà, vous avez ce type d'action. Vous avez, pour terminer, donc, ce qui est vraiment mon domaine de spécialité, la désobéissance civile. Alors la désobéissance civile, ça remonte hein, aussi, il y a quand même presque un demi-siècle hein, en France. Les premières actions de désobéissance civile, c'est déjà dès les années 50, hein, à partir de, au moment où se fonde la communauté de l'Arche par Lanza del Vasto. Lanza del Vasto, c'est un Français, mais disciple de Gandhi, qui est allé rencontrer Gandhi en Inde, et quand il revient, il décide, il essaye, et il réussit en partie, à transposer le mode de vie communautaire que Gandhi avait mis en place avec ses disciples, ce qu'ils appellent des ashrams, des espèces de micro-communautés, qui fonctionne sur un mode très particulier que j'ai pas le temps de décrire, mais que Lanza del Vasto va mettre en place en France. Hein, donc ça s'appellera les communautés de l'Arche. Et ces communautés de l'Arche, elles vont servir de base arrière pour mettre en place des actions de désobéissance civile contre le nucléaire militaire à l'époque. Donc voilà, par exemple, prendre une embarcation et puis aller en mer pour empêcher les essais nucléaires. Vous avez aussi en 1960, les 121 qui signent une déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, donc voilà, un certain nombre de porteurs de valises. Vous avez quelques années plus tard le manifeste qui paraît dans le Nouvel Observateur des 343 femmes qui déclarent qu'elles se sont faites avorter. Vous avez le Larzac aussi, hein, qui à nouveau, l'occupation d'un camp militaire relève de la désobéissance civile, mais ces actions de désobéissance civile, elles vont un peu disparaître au cours des années 80, un peu disparaître du paysage, parce que dans ces années-là, dans cette décennie-là, hein, que François Cusset a caractérisé de cauchemardesque, on a un reflux générale de la contestation sociale. Et la désobéissance civile va réapparaître dans les années 90 avec certaines actions emblématiques. Je vous ai déjà parlé en 1999 donc, du démontage du McDonald's de Millau, mais quelques années plus tard, en 1993, vous avez ACT UP, qui, pour attirer l'attention de l'opinion publique et des décideurs sur la question du sida qui fait des ravages parmi les homosexuels, va mettre un préservatif géant sur la Concorde, sur l'obélisque de la Concorde en bas des Champs-Élysées. Et voilà, vous avez tout un tas de collectifs, donc j'ai mentionné ACT UP, j'ai mentionné les faucheurs d'OGM, vous avez aussi droit au logement, là c'est plutôt des étudiants qui vont ouvrir des squats en attirant l'attention sur les prix des loyers en ville. Et donc voilà, vous avez tout un tas d'actions de désobéissance civile qui vont se mettre en place et de collectifs qui vont se mettre en place. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement que se démultiplient les actions de désobéissance civile, mais c'est aussi que le mot lui-même va connaître un certain succès. Voilà. Le mot lui-même va être utilisé par des gens qui ne l'utilisaient pas auparavant afin d'étiqueter leurs actions, qui étaient des actions illégales et non violentes, mais voilà, qui n'étaient pas désignées comme désobéissantes. Et petit à petit, ces gens-là vont s'étiqueter comme des désobéissants. On va avoir aussi un florilège d'expressions qui va apparaître. On est toujours dans les années 90. Quand on regarde un petit peu la littérature militante, on voit, ça parle donc de désobéissance civile, bien sûr, mais aussi de désobéissance éthique, de désobéissance civique, désobéissance pédagogique, institutionnelle, professionnelle, désobéissance individuelle. Donc voilà, c'est intéressant ce niveau symbolique, parce que si vous voulez, ça va permettre quoi ? Ça va permettre à des acteurs qui étaient auparavant plus ou moins isolés les uns des autres de s'apercevoir qu'il y a une forme d'identité commune et du coup ça va se traduire par des rapprochements, des alliances entre différents collectifs, des échanges, la mise en place, ça c'est un moment important à partir de 2010, de forums de la désobéissance. Tous les ans dans la ville de Grigny, on réunit tous les acteurs de la désobéissance et donc se constitue à ce moment-là ce qu'on peut appeler un véritable champ de la désobéissance civile en France. Et donc voilà, dans la suite de mon propos, quand je vais parler des désobéissants, c'est pas simplement pour parler des désobéissants civiles, mais c'est de manière un peu plus englobante pour en y adjoignant les zadistes, les activistes, les lanceurs d'alerte dont je parlais tout à l'heure. Simplement, donc là, ce que j'essayais d'illustrer... Oula, je vois pas du tout ce qu'il y a écrit sur cette feuille. Ah oui, d'accord. C'est trop fort, c'est ça ?
Oui.
Ok, je m'éloigne un petit peu du micro. Comme ça, c'est bien ?
Oui, c'est bien.
Donc sur ce que je voulais indiquer, c'est que, bon, pour résumer ma thèse, on a un déplacement du centre de gravité de la conflictualité sociale au sens où les luttes prennent des formes de plus en plus extra-légales. Voilà, c'est ça la thèse que je défends. Se pose du coup immédiatement une question. Pourquoi assiste-t-on à cette extra-légalisation, illégalisation des luttes ? Il y a deux réponses possibles, et à mon avis, les deux réponses contiennent une part de vérité. C'est que d'un côté, il y a une radicalisation militante, voilà, pour le dire vite, il y a des personnes qui autrefois manifestaient, se syndiquaient, et qui vont peut-être continuer à le faire, par ailleurs, parce que c'est souvent le cas, mais qui vont... En plus de ça, parce qu'ils jugent que la grève ou la manifestation ne leur permet pas d'atteindre leur but, qu'ils vont avoir recours à des actions peut-être un peu plus radicales ou en tout cas illégales. Ça, c'est une première donnée. Mais il y a un deuxième élément sur lequel j'aimerais vraiment attirer l'attention. C'est pas uniquement cette extra-légalisation, elle n'est pas due uniquement à une radicalisation des militants, mais aussi à une radicalisation de l'État. Une évolution, alors on peut l'appeler comme on veut, non pas comme on veut, il faut être précis avec les termes, mais répressive, sécuritaire, la main droite de l'État, enfin je sais pas, après voilà, chacun met des termes là-dessus, c'est pas forcément ce débat-là que j'ai envie d'ouvrir, mais clairement, ce que je voudrais signaler, c'est que l'État devient de plus en plus répressif, la loi d'abord devient de plus en plus répressive et l'action aussi des forces de l'ordre également. Et donc ça crée quoi ? ça crée un phénomène assez intéressant, c'est que des formes d'action, donc, comme la grève, le boycott ou la manifestation, qui étaient, il y a encore quelques temps de ça, considérées comme des libertés fondamentales dans notre société, hein, des formes d'action qui sont constitutionnellement protégées, eh bien, petit à petit, vont être placés hors du périmètre de la légalité. Exemple, en 2007, le gouvernement Fillon fait passer une loi sur le service minimum dans les écoles et dans les transports publics, qui fait quoi ? Qui fait que le lendemain où cette loi est approuvée, si vous êtes instituteur, institutrice ou conducteur de train, et que vous décidez de faire une grève spontanée, c'est-à-dire sans avoir donné de préavis à votre employeur 48 heures avant, et bien votre grève, elle est illégale. Vous n'avez pas le droit de faire grève. Avant, vous pouviez vous déclarer gréviste et dans la minute, vous mettre en grève. À partir de cette réforme sur le service minimum, vous ne pouvez plus. Deuxième exemple sur le boycott. Hein, je rappelle que dans les années 90, il y a un grand boycott, un mouvement de boycott en France qui se met en place contre les produits sud-africains. À ce moment-là, toute la classe politique française, de droite comme de gauche, vous pouvez aller voir, c'est intéressant parce que c'est les mêmes responsables politiques qu'on a dans les années 90 et qu'on a en 2010, toute la classe politique française appelle à boycotter notamment le produit phare à l'époque, c'était les oranges Ispan. Eh bien, 20 ans plus tard, en 2011, Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, fait passer une circulaire contre le mouvement boycott des investissements sanctions, donc qui appelle à boycotter les produits israéliens et plus particulièrement ceux produits dans les colonies. Et là, cette circulaire, elle rend passible de poursuites pour antisémitisme l'appel à boycotter ce type de produit. Voilà. Et dernier exemple, et en fait c'est même peut-être par celui-là qu'il aurait fallu commencer, car c'est le plus flagrant, la manifestation. Alors là, pour le coup, j'ai dit combien c'était quelque chose de routinisé, de communément accepté, même par tous les pans de la société. Eh bien, à partir de 2014, de l'été 2014 plus précisément, et là du mouvement en solidarité avec les Gazaouis, on est pendant l'opération Plomb durci, où les bombes pleuvent sur Gaza, vous avez une manifestation appelée à Paris, et Manuel Valls, Premier ministre ou ministre de l'Intérieur à l'époque, je ne sais plus, avec le préfet, fait interdire cette manifestation. Rebelote un an plus tard, COP21 à Paris, cette fois-ci, la manifestation qu'on va empêcher, c'est plus celle de la solidarité avec la Palestine, mais c'est la mobilisation des écologistes. Et rebelote encore un an plus tard, en 2016, cette fois-ci, c'est des manifestations contre la loi travail qu'on va empêcher, ou alors qu'on va mettre en cage. C'est cette invention-là, à Paris, on a mis vraiment les gens en cage sur 2 km. La cagifestation, on a tourné autour du bassin à Bastille, comme ça, pendant 3 heures. Donc voilà, hein, ce que je veux dire par là, c'est que vous étiez un militant, vous manifestiez, vous faisiez grève, vous boycottiez. Vous n'avez pas changé votre mode d'action durant ces 2 décennies, mais comme le périmètre de ce qui est légal, ce qui est autorisé de faire pour contester est en train de se restreindre, ben, automatiquement, vous vous retrouvez du côté de l'extra-légalité. Alors, ce que je voudrais faire maintenant, c'est basculer à un niveau on peut l'appeler philosophique, normatif ou conceptuel, pour essayer de voir un petit peu quelle est la légitimité de ce mode d'action. Je me suis intéressé pendant ma thèse à 3 types de discours à l'égard de ces actions extra-légales, 3 types de discours que, alors c'est des idéotypes, hein, mais que j'ai classé du coup d'abord ce que j'appelle une topique conservatrice, et donc là c'est vraiment un discours hostile à ces actions extra-légales. Ensuite une topique libérale, là c'est un discours pour le coup qui a été formulé à un niveau philosophique assez sophistiqué par des penseurs comme John Rawls ou Jürgen Habermas, qui est un discours qui défend les actions de désobéissance civile, qui en tout cas à première vue leur est plutôt favorable, qui vise à leur apporter justement un fondement philosophique. Et troisième type de discours, ce que j'ai appelé la topique désobéissante. Alors là, pour être plus concret, je vous l'ai dit, je me suis intéressé à la pensée de Gandhi, de Martin Luther King, d'Henry David Thoreau, et j'ai été voir ce qu'il disait. Parce que souvent, quand on s'intéresse à la désobéissance civile, on dit, ben voilà, il y a les acteurs d'un côté, Martin Luther King, Gandhi, tous ceux qui ont agi avec eux, et de l'autre côté, il y a les intellectuels, les philosophes, surtout, les philosophes, voilà, qui ont pensé la désobéissance civile et qui lui ont fourni un fondement, une justification. Et moi, j'ai voulu casser cette césure en disant, non, mais peut-être qu'en fait, les acteurs ont eux-mêmes réfléchi à leur propre pratique et ont eux-mêmes fourni la théorie de leur pratique. Et c'est pour ça que j'ai considéré qu'il fallait lire, avec autant de crédit qu'on lit Rawls et Habermas, il fallait lire Gandhi et Martin Luther King, mais aussi les productions militantes plus contemporaines que j'ai lu et que j'ai essayé dans cette littérature militante, j'ai trouvé de fortes homologies avec ce qu'on trouvait chez Gandhi et Martin Luther King. Est-ce que, je spoil un petit peu mon propos, mais ce que la conclusion de toute cette affaire, c'est qu'en allant voir ce qui avait très peu été fait jusque-là, ce que racontent les désobéissants à propos d'eux-mêmes, on se rend compte que les libéraux, je les appelle comme ça, un rôle Habermas, voilà, qui se présentent comme favorables à la désobéissance civile, sont en réalité de faux amis. Voilà. Ils justifient en principe la désobéissance civile, mais en pratique, ils font tout pour la domestiquer, pour empêcher son usage. Et c'est ça que je vais essayer de développer un petit peu. Mais alors d'abord, peut-être pour comprendre toute cette affaire, il faut s'intéresser à la topique conservatrice, parce que c'est là le point de départ. La topique conservatrice, là, on trouve pas de, il n'y a pas de livre, si vous voulez, de manifeste, de réflexion un peu d'ampleur contre la désobéissance civile. Là, ce qu'il faut faire, c'est aller voir le discours des dirigeants politiques, aller voir aussi le discours des juristes et des juges, notamment des juges suprêmes de la Cour américaine. Ce type de personnes, parfois, vont prendre position et vont expliquer pourquoi la désobéissance civile est un vrai danger qui mine la démocratie. Et chez eux, on va trouver trois grands arguments à l'encontre de la désobéissance civile. Trois arguments que je vais vous exposer maintenant, parce que c'est par rapport à ces arguments que vont se positionner ensuite les libéraux et les désobéissants. Les trois objections adressées à la désobéissance civile, c'est premièrement son illégalité. Pourquoi agir dans l'illégalité alors que les désobéissants sont dans un régime démocratique dont le propre, c'est d'offrir aux mécontents, aux insatisfaits, aux rebelles, des moyens de contestation légaux. Vous pouvez voter pour un parti d'opposition, vous pouvez manifester, vous pouvez pétitionner, vous pouvez boycotter. Alors pourquoi est-ce que vous nous faites, enfin, passez-moi l'expression, aller désobéir alors que justement la différence entre une démocratie et un État autoritaire, c'est qu'en démocratie, il y a des canaux d'expression qui sont offerts et qui sont légaux et qui sont offerts aux contestataires. Voilà, donc ça c'est le premier argument contre les désobéissances civiles. Pourquoi vous contestez illégalement alors que vous avez à votre disposition des moyens légaux de contester ? Espèce d'ingrat. La deuxième objection, c'est... Donc là, la première, c'était contre le caractère illégal de la désobéissance civile. La deuxième objection, c'est contre le caractère antidémocratique de la désobéissance civile. Là, l'argument des conservateurs, c'est de dire qu'en se soustrayant à une loi pourtant votée par un parlement régulièrement élu, les désobéissants violent le principe de majorité. Violent le principe de majorité et s'octroient un droit de veto individuel qui mine le principe démocratique selon lequel un individu égale une voix. Voilà. Là, c'est la désobéissance civile est présentée comme une rupture contrat démocratique. Et le troisième argument, qui est celui en fait qu'on retrouve le plus souvent et qui est aussi, à mon sens, celui qui a la portée peut-être la plus intéressante, c'est sur le caractère anarchique ou anomique de la désobéissance civile. Le désordre généré par les désobéissants. Là, l'argument, c'est de dire, si chacun est autorisé à désobéir à une loi à partir du moment où il la juge injuste, est-ce que ça ne va pas précipiter la société dans le désordre, le chaos généralisé ? Voilà, la désobéissance civile ne résiste pas au test d'universalisation kantien. C'est l'argument de la pente glissante, hein, si vous voulez le formuler plus communément. Et effectivement, ça, c'est quelque chose, c'est peut-être ça qu'il y a justement de plus fort, je trouve, dans les objections adressées aux désobéissants. Alors, à ces trois objections, Rawls et Habermas, donc deux philosophes politiques, on va dire, d'obédience libérale, mais entendez-le libéral, vraiment entendez-le au sens politique et philosophique du terme, parce que, enfin, entendez-le au sens philosophique du terme, parce que politiquement, c'est des sociodémocrates, Rawls et Habermas. Ils vont tous les deux écrire, Rawls en 1971, c'est sa théorie de la justice, hein, c'est son ouvrage majeur, l'ouvrage qui va d'ailleurs redonner vie à une discipline qui avait été asphyxiée à l'époque par les sciences sociales. Dans la théorie de la justice, qui est un gros livre, hein, de plus de 500 pages, vous avez une trentaine de pages consacrées à la désobéissance civile. D'ailleurs, la section s'intitule « Justifier la désobéissance civile ». Et quelques années plus tard, Jürgen Habermas, lui aussi, hein, partisan d'un libéralisme, alors peut-être un peu plus substantiel que celui de Rawls, va écrire un texte important. C'est un article scientifique qui sera repris plus tard dans une compilation qui s'appelle « Le droit et la force », qui est publiée en français au début des années 80. Rawls va écrire un article Habermas va écrire un article très intéressant. On est à cette époque-là, je ne sais plus l'année exacte, mais on est donc en Allemagne avec l'installation des missiles Pershing 2 par l'OTAN, par les États-Unis, afin, dans le cadre de la guerre froide, hein, de se protéger de l'URSS. Et vous avez, contre l'installation de ces missiles, un mouvement étudiant antimilitariste qui se met en place et qui va susciter un débat en Allemagne important, et qui va, ces antimilitaristes vont avoir la sympathie de Jürgen Habermas, qui va donc prendre la plume pour, avec son autorité, mais surtout avec ses compétences de philosophe du droit et de philosophe politique, expliquer pourquoi ces étudiants sont dans le droit chemin. Et l'argument d'Habermas que je résume ici, c'est de dire les conservateurs, alors lui il les appelle les hobbistes allemands, les disciples de Thomas Hobbes, allemands, parce qu'on est en Allemagne, concrètement il est en train de parler de 3-4 juristes qui citent dans son texte et qui ont écrit pour condamner l'action des étudiants. Habermas leur répond, vous, les hobbistes allemands, vous ne prenez en compte qu'un des deux piliers de l'état de droit. Ce pilier, c'est la préservation de l'ordre public, la préservation de la paix civile, la préservation de la sécurité. Et effectivement, c'est l'une des fonctions, l'un des piliers de l'état de droit, c'est assurer l'ordre public. Mais vous oubliez le second pilier, qui est que cet ordre doit être reconnu comme légitime par les sujets auxquels il s'applique. C'est ce qui distingue un état de droit d'un état tout court ou d'un état autoritaire. Et dit Habermas, le problème, il n'est pas seulement philosophique ou juridique, ce n'est pas juste une erreur théorique que vous faites là. C'est que à partir du moment où vous prenez en compte uniquement le premier pilier, donc l'état doit garantir l'ordre, eh bien, vous en aboutissez à une conclusion pratique qui est qu'il faut obéir de manière inconditionnelle à l'État. Ah oui, c'est logique, si on veut maintenir l'ordre. Alors que quand on prend en compte le deuxième pilier, qui est que cet ordre doit être reconnu comme juste par ceux auxquels il s'applique, eh bien, l'obéissance devient non plus un devoir inconditionnel, mais une chose qu'il faut pratiquer, dit Habermas, c'est son expression, en connaissance de cause. Voilà, il faut obéir en connaissance de cause, et donc parfois aussi désobéir en connaissance de cause. Voilà. C'est comme ça que Habermas va répondre aux conservateurs, et on va trouver chez John Rawls, donc dans la théorie de la justice, une argumentation qui n'est pas exactement la même, mais dont la structure générale est proche de celle d'Habermas. Ce que dit Rawls dans sa section sur la justification de la désobéissance civile, c'est qu'en tant que citoyen, on a deux devoirs. Le premier, c'est, dit Rawls, de soutenir et renforcer les institutions d'une société presque juste. Donc ça, c'est ce que c'est. On retombe plus ou moins sur la préservation de l'ordre. Mais ce qu'ajoute Rawls, c'est qu'il y a, ce premier devoir, donc de soutenir et défendre les institutions de la société presque juste, peut entrer en contradiction avec un deuxième devoir qui est de lutter contre les atteintes graves au premier principe de justice. Le premier principe de justice, c'est les libertés individuelles égales qui sont garanties à toutes et tous. Donc voilà, quand les institutions portent atteinte aux libertés fondamentales, là, il y a conflit des devoirs, et donc ça ouvre une brèche pour la désobéissance. Alors, ce que je viens de raconter là, c'est quand on confronte la topique libérale à la topique conservatrice. J'aimerais maintenant confronter la topique désobéissante à la topique conservatrice. Qu'est-ce que Gandhi et Martin Luther King, qui ont passé un certain nombre d'années, pour Gandhi, oui, clairement d'années, pour Martin Luther King, de mois, qui ont passé un certain nombre de mois en prison et donc qui ont eu, on va dire, le temps au fond de leur geôle de réfléchir aux arguments de leurs détracteurs et d'y répondre. Je dis ça parce que le texte vraiment central dans lequel Martin Luther King expose sa théorie de la désobéissance civile, c'est la lettre de la prison de Birmingham qu'il va rédiger sur le papier toilette qu'on lui fournit à l'époque. Et Gandhi, lui, son livre phare sur la question, Gandhi a écrit plus de 30 volumes, mais son livre phare sur la question, donc Young India, c'est aussi un livre qui est écrit en prison. Donc c'est aussi des parenthèses dans leur vie extrêmement agitée et militante. C'est des parenthèses dans lesquelles, autre parallèle intéressant entre Gandhi et Martin Luther King, c'est en prison aussi que tous les deux vont découvrir pour la première fois le petit opuscule de Henry David Thoreau, donc sur la résistance au gouvernement civil, qui a été réappelé Discours sur la désobéissance civile, où Thoreau explique pourquoi il a refusé de payer son impôt à l'État esclavagiste du Massachusetts. Donc en prison, hein, c'est philosophe. Que je considère que c'est des philosophes, vont répondre dans différents textes aux trois objections d'illégalité, d'antidémocratisme et d'anarchie que je mentionnais précédemment. Je voudrais vous exposer leurs réponses. Sur l'illégalité, il y a deux arguments. Le premier, très rapide, hein, c'est que la contestation légale se révèle parfois insuffisante, inefficace. Les Indiens ont commencé par manifester, les Noirs, les Afro-Américains ont commencé par pétitionner, mais ça n'a pas fait bouger les choses. Et donc c'est parce que la contestation légale est insuffisante qu'on s'autorise, du coup, parce que les canaux en fait, institutionnels sont sans débouché, qu'on s'autorise à aller voir du côté de l'extralégalité. Et un deuxième argument qui porte aussi, c'est que ce qui est légal et ce qui est illégal, ce n'est pas des choses figées, immuables, c'est évolutif en fait dans le temps. Ce qu'on considère aujourd'hui comme des droits fondamentaux, le suffrage universel ou la grève, bon, bah, c'était au XIXe siècle des choses illégales qui ont été obtenues justement parce qu'il y a des gens qui ont fait grève pour obtenir le droit de grève. Donc voilà, ce qui est légal aujourd'hui, ça ne l'était pas forcément hier, ça ne le sera plus forcément demain. Donc, si vous voulez vous mettre dans l'illégalité à un moment donné en entrant, comme les Noirs américains, dans les bibliothèques qui sont ségrégées, ce n'est pas forcément un rejet de la loi, c'est une façon d'élargir ce que la loi autorise, de la rendre tout simplement plus équitable. Et donc on n'est pas voilà, dans une forme d'illégalité frontale. La deuxième objection, j'avais dit, c'est le caractère antidémocratique de la désobéissance civile. Vous, désobéissant, vous refusez la loi votée par le Parlement, donc en gros, vous refusez le principe de majorité, vous octroyez un pouvoir individuel, une espèce de souveraineté individuelle. Alors, là, il y a deux réponses à ça qui sont très différentes, qui sont en fait même incompatibles. La première réponse, c'est celle qu'on va trouver surtout, justement, dans l'opuscule d'Henry David Thoreau. C'est de dire, mais ce que dit Thoreau dans son opuscule, c'est quand il y a un conflit entre ce que me dicte la loi et ce que me dicte ma conscience, je dois me fier à ma conscience. Voilà. Donc si vous voulez, il y a pour Thoreau, quand il y a conflit, il n'y a évidemment pas toujours conflit, mais quand il y a conflit, il y a une supériorité de la conscience individuelle par rapport à la loi de la majorité. Et Thoreau l'écrit noir sur blanc. Il dit la loi de la majorité, c'est la loi du plus fort. Il arrive, et c'est fréquent, que la majorité ait tort, et donc je dois me fier à ce que me dit ma conscience individuelle. Et ça, c'est un argument qu'on va retrouver en partie chez Gandhi et chez Martin Luther King, cette suprématie de la conscience individuelle. Mais moi, c'est un argument qui me met extrêmement mal à l'aise. Je vais vous expliquer pourquoi en convoquant Hannah Arendt, qui a écrit aussi un très beau texte. On est toujours à la même période, dans les années, fin des années 60. Là, alors, il précède un petit peu les Rawls et Habermas. Mais Hannah Arendt écrit un très beau texte sur la désobéissance civile, où elle s'intéresse à cet argument de la conscience individuelle et où elle dit deux choses contre Soro et contre ceux qui reprendront cette idée. Premier argument, ça c'est le moins important, le deuxième est vraiment central. Premier argument, elle dit mais en fait vous désobéissez au nom de votre conscience individuelle, mais moi j'ai aucun moyen de savoir de vérifier ce que vous dit votre conscience. Vous êtes en train de désobéir à telle loi sur l'impôt, Monsieur Henry David Thoreau, en me disant que c'est parce que votre conscience vous dit que cet impôt est injuste, il finance l'esclavagisme. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, si ça se trouve, votre conscience, elle vous dit qu'en fait, ce que vous avez dans votre tête, c'est tout simplement que vous êtes un espèce d'exilé fiscal qui n'a pas envie de payer à cet État communiste qui vous spolie. Mais comme vous savez que vous ne pouvez pas le dire comme ça, vous allez inventer une belle rhétorique de « Ah, je défends les esclaves, donc je ne paye pas l'impôt. » Et moi, j'ai aucun moyen de le vérifier. Et personne, en fait, ne peut vérifier ce que vous dit votre conscience, puisque c'est votre fort intérieur, c'est votre intimité, c'est inviolable, en fait. Et donc ça, c'est le premier argument d'Arendt. Elle dit c'est compliqué de justifier quelque chose en termes de conscience individuelle, parce qu'on ne peut pas aller y voir. Vous ne pouvez pas exposer ça dans l'espace public et on ne peut pas le confronter ensuite. Donc ça pose un vrai problème. Et le deuxième argument qu'elle avance, c'est qu'elle dit la conscience individuelle, c'est bien joli quand il s'agit de s'opposer, de déconstruire les lois. Mais par contre, quand il s'agit de proposer de construire, ou en fait, pour utiliser les termes de Arendt, de fonder un ordre politique, et ben là, la conscience individuelle, elle est totalement inapte à fonder un ordre politique, parce que ce que dit à Salvador sa conscience individuelle peut être différent de ce que dit à Simon sa conscience individuelle, qui va être différent de ce que dit ma conscience individuelle. Donc, au moment où il va falloir qu'on s'assemble pour définir un minimum de règles, des institutions communes qui vont nous permettre de faire société à trois, eh bien, dit Arendt, il y a toutes les chances pour que ces consciences elles soient incommensurables et qu'elles n'arrivent pas à s'accorder justement sur un minimum commun. Donc certes, la conscience individuelle suprême, ça permet de désobéir à peu près tout ce que vous voulez, de déconstruire tous les ordres politiques possibles et imaginables, mais ça ne permet pas de fonder un ordre politique. Voilà. Et donc, elle est très méfiante face à ce qu'elle appelle, elle, ce subjectivisme de Soro. Je pense que c'est un argument qui n'est pas à négliger. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une deuxième... quand on dit aux désobéissants que leurs actions sont antidémocratiques parce qu'elles violent le contrat et la principe de majorité, il y a une deuxième réponse des désobéissants, là, qui est très différente. Qui est... Parce que en gros, ce que dit Soro, et pareil, il le dit quasi textuellement, il dit « bah oui, c'est antidémocratique, et d'ailleurs, j'assume d'être antidémocratique puisque la démocratie conduit parfois à des choix erronés et injustes. Voilà. » Et un autre argument, tout à fait différent, chez les désobéissants, et là, c'est celui qu'on va retrouver de manière fréquente chez Gandhi et Martin Luther King, c'est de dire « mais le juge, les garants de la loi, vous nous accusez d'être antidémocrates. En fait, ce n'est pas nous qui sommes antidémocrates, c'est le régime que vous représentez. En quoi un État colon comme la Grande-Bretagne est un État démocratique ? Ce n'est pas un État démocratique, c'est un État colonial. En quoi un État comme les États-Unis d'Amérique, qui a une législation ségrégationniste, donc qui crée deux catégories de citoyens, et un État démocratique. Ce n'est pas un État démocratique, c'est un État ségrégationniste. Et cet argument, on va le retrouver de manière très fréquente, par exemple, chez les faucheurs d'OGM, les altermondialistes, etc., qui vont dire « mais vous nous accusez de violer la loi démocratique, mais en fait la loi elle n'est pas démocratique, la loi elle est élaborée à Bruxelles par 3000 lobbyistes qui tiennent le stylo des eurodéputés européens, et donc en fait c'est des lois qui sont écrites par une minorité et pour une minorité. Et donc, en fait, c'est retourner complètement l'accusation. C'est pas nous, des obéissants, qui sommes les minoritaires, les rabat-joie, les empêcheurs de tourner en rond et les briseurs de démocratie. On n'est pas en démocratie. Alors, après, il y a toute une batterie d'arguments pour expliquer pourquoi on n'est pas en démocratie, mais on est dans une forme d'oligarchie où la loi est faite voilà, par et pour une élite. Et donc, du coup, au contraire, les désobéissants, eux, sont ceux qui représentent la majorité privée de ses droits. Le troisième et dernier argument, celui du caractère anarchique de la désobéissance. Si tout le monde s'autorise à désobéir à partir du moment où il juge une loi injuste, ça va précipiter la société dans le désordre généralisé. Là, il y a trois types de réponses qui sont faites. D'abord, et on les trouve toutes les trois chez Gandhi. D'abord, Gandhi répond, attention, le désordre créé par les actions de désobéissance civile, par exemple, quand il va mener sa campagne du sel pour aller ramasser sur le bord de l'océan une poignée de sel, alors que c'est uniquement les Britanniques qui ont le monopole, enfin c'est les Britanniques qui ont le monopole du sel, ce type d'action, ça suscite des désordres, mais en fait, c'est plutôt que ça révèle un désordre qui était latent, qui était préalable, le désordre de l'injustice, le désordre de l'iniquité. Et en fait, la désobéissance civile se contente de révéler publiquement ce désordre. Elle n'en est pas la cause. Ça, c'est donc le désordre était latent. Le deuxième argument, c'est que si la désobéissance civile crée un désordre, c'est simplement un désordre provisoire en vue d'instaurer des lois et une société, et donc un ordre plus juste et plus humain que le précédent. Donc voilà, le désordre, c'est qu'une étape vers un ordre plus humain et donc aussi bah, plus durable, plus stable, voilà, vers plus d'ordre au final. Mais ces deux arguments, les désobéissants ne font que révéler un désordre latent ou produisent un désordre provisoire, ils conservent un présupposé, qui est un présupposé pour le coup des conservateurs, qui est que le désordre, c'est mal. Et l'ordre, c'est bien. Et il faut à tout prix se prémunir du désordre. Et un argument qu'on retrouve parfois de manière, mais vraiment, alors il faut forcer un peu la lecture de Gandhi pour le trouver. Donc voilà, par moment, je force un peu ma lecture de Gandhi. Si vous voulez cet argument exprimé pour le coup de manière limpide et je trouve assez convaincante, vous pouvez lire le Machiavel, l'ouvrage sur Machiavel de Claude Lefort, dans lequel il revient sur la sécession des plébéiens sur l'Aventin et sur les tumultes de la plèbe romaine, et où Machiavel explique justement, et là va avancer une idée qui est pour le coup, qu'on entend assez rarement, qui est une espèce de réhabilitation du désordre. Voilà. Et donc il y a ce geste aussi qui est possible d'expliquer que le désordre, bah, c'est aussi quelque chose de constitutif de la vie, ça fait partie d'une espèce d'effervescence, parfois productive, d'affect joyeux, et donc et aussi porteuse de tout simplement de liberté, d'émancipation. Donc voilà, il y a aussi cette réponse-là qu'on trouve par moment qui consiste à réhabiliter le désordre. Alors ça, c'était donc les réponses désobéissantes aux objections conservatrices. Ce que j'aimerais faire maintenant, et alors ça, bon, c'était la partie de mon travail dont j'étais le plus satisfait, parce que c'était vraiment la partie la plus, en tout cas à mon sens, mais j'ai pas tout lu, mais la plus originale de ce que j'ai pu dire dans ma thèse. Il y a 5% de choses originales, elles se situent dans ce passage-là. C'est qu'à un moment, je me suis dit, très bien, j'ai confronté les libéraux aux conservateurs, j'ai confronté les désobéissants aux conservateurs, mais maintenant, je vais confronter les désobéissants aux libéraux, puisque, a priori, tous les deux sont favorables à la désobéissance civile, tous les deux disent à peu près la même chose, et quand on regarde vraiment aujourd'hui, quand on lit la vaste littérature qui existe sur la désobéissance civile, à chaque fois qu'il est demandé, mais alors, est-ce que c'est légitime, oui ou non, eh ben, on cite Rawls ou Habermas, ou bien alors, on va citer Dworkin ou certains de leurs disciples, mais voilà, on prend jamais les textes de Gandhi, de Martin Luther King, des désobéissants eux-mêmes pour justifier les pratiques. Donc moi, j'ai essayé de confronter les deux. Et donc, voilà, je vous avais déjà spoilé, je vous ai dit, on trouve, c'est pas du tout la même défense de la désobéissance civile. Et derrière chacune des deux défenses de la désobéissance civile, il y a une vision globale de ce qu'est la politique, ce qu'est la démocratie. Et il est important, vraiment, je crois, de bien distinguer les deux, parce qu'elles sont non seulement différentes, mais en plus, franchement, je pense que si on endosse l'une, on est en devoir de récuser la seconde. Euh, Donc mon affirmation, ma thèse, c'est que les libéraux, Rawls notamment, considèrent que la désobéissance est possible en principe, elle est possible théoriquement, mais pour lui, elle est indésirable politiquement. Voilà. Il en justifie le principe, mais il en verrouille l'usage. Pourquoi est-ce que je dis qu'il en verrouille l'usage ? Parce que Rawls, après avoir justifié l'usage de la désobéissance civile en disant voilà, il y a un principe de justice, les libertés fondamentales, quand une loi viole ces libertés fondamentales, on peut y désobéir. Après avoir justifié la désobéissance civile, et Rawls le fait sur 4-5 pages, il va mettre 25 pages à refermer ce premier geste en imposant ce qu'il appelle des conditions de légitimité à la désobéissance civile. Il va mettre en avant 5 conditions. Il faut qu'elles soient toutes respectées à la fois. Si une action de désobéissance civile entre en infraction avec ne serait-ce qu'une seule de ces 5 conditions, eh bien, pour Rawls, comme pour les conservateurs du coup, cette action n'a pas lieu d'être, n'a pas droit de citer. Ces conditions, quelles sont-elles ? Je les cite et je vais y revenir. C'est, premièrement, une action de désobéissance civile ne doit porter que contre une loi en particulier et jamais contre l'ensemble de l'ordre juridique. Il doit y avoir un respect de l'ordre juridique dans son ensemble. Voilà. Vous pouvez contester telle loi, tel point, mais jamais l'ordre juridique dans son ensemble, jamais ses fondements. Je vais en citer que 4 parce que la 5e, elle m'emmènerait trop loin. Deuxièmement, les désobéissants doivent assumer les conséquences de leur acte. C'est-à-dire, très bien, vous pouvez démonter un McDo, vous pouvez entrer dans une bibliothèque qui est ségrégée, mais alors ensuite, vous devez accepter d'aller en prison si le juge vous dit que c'était illégal et que vous allez en prison. Troisièmement, vous n'avez le droit d'utiliser la désobéissance civile qu'en dernier recours, c'est-à-dire après avoir épuisé toutes les voies légales. Donc d'abord, vous allez discuter avec votre député pour voir s'il ne peut pas faire quelque chose. Après, vous essayez de fonder un parti politique si aucun des partis en présence ne porte votre parole. Après, si ça ne marche pas avec un parti, vous allez manifester. Si ça ne marche pas avec une manif, vous pouvez boycotter. Vous faites tout ce qui est légal et si seulement tout ça ne marche pas, alors à la fin, vous avez le droit de désobéir, mais pas avant. Et dernier point, votre action sera de désobéissance sera légitime si vous refusez par avance et de manière absolue toute forme de violence. Voilà. Alors, pourquoi je dis que ces conditions, en fait... la cinquième, il faut que quand on désobéit à une loi, c'est en disant qu'elle est injuste. On ne désobéit pas aux lois justes, on désobéit aux lois injustes. Et Rawls dit, il faut que vous défendiez... Que ce que vous appelez justice, quand vous dites cette loi est injuste, il faut que ce que vous appelez justice ait le statut de conception commune de la justice. Donc que ce soit une définition de la justice acceptée, alors pas par tous, ça c'est Rawls dit, okay, ça ce serait un peu trop exigé, parce que voilà, on peut pas, de toute façon, il n'y a aucune conception de la justice acceptée par tout le monde, mais il faut que votre conception de la justice, elle soit acceptée par tous les sujets raisonnables de la société. Voilà. Donc c'est quand même, enfin voilà, ça suppose aussi quelque chose d'assez difficile à remplir comme condition. Et alors ça pose deux problèmes, si vous voulez. Rawls s'appelle ça des conditions de légitimité, moi j'appelle ça des restrictions de légitimité. Ça pose deux problèmes. D'abord un problème pratique, enfin conséquentialiste, si vous voulez, c'est que moi en 2012, au moment où je m'intéressais à cette affaire, j'ai recensé les 12 actions de désobéissance civile qui avaient été, relayées par les médias en France au niveau national. Et pour chacune de ces 12 actions, j'ai été récupérer les informations nécessaires et je les ai confrontées aux 5 critères de Rawls. Il n'y a aucune de ces actions qui satisfait les critères de Rawls. C'est même le mouvement des droits civiques, et d'ailleurs surtout le mouvement des droits civiques, ne respecte pas ces conditions. Enfin, contester une loi en particulier, non. Quand on lit Martin Luther King, il conteste l'ordre impérialiste, l'ordre capitaliste et l'ordre raciste qui structure les États-Unis d'Amérique. Il ne conteste pas telle ou telle loi. C'est écrit noir sur blanc chez Martin Luther King. On peut repasser à peu près tous les mouvements de désobéissance civile qu'on veut, ils ne remplissent jamais ces conditions. Donc ça fait de cette théorie une théorie qui est quand même franchement déconnectée de l'objet qu'elle prétend, dont elle prétend rendre compte, et plus que ça, dont qu'elle prétend justifier et défendre, parce que c'est affirmé par Rawls que c'est une justification de la désobéissance civile, c'est comme ça qu'il appelle sa section, et dans les faits, ça n'en est pas une. Donc ça, c'est le premier problème, très pratique. Mais le deuxième problème, c'est qu'on peut examiner une à une ces conditions, elles sont tout à fait discutables. Rawls les pose et les défend, et c'est son droit, en fait. Il a le droit de les défendre, mais on a aussi le droit de les discuter. Par exemple, la désobéissance civile doit être utilisée en dernier recours. Quand vous êtes un militant de la justice climatique qui défend l'environnement, etc., est-ce que vous avez 20 ans à perdre parce que c'est ça, les délais, les délais institutionnels. Est-ce que vous avez 20 ans à perdre avant de vous autoriser à désobéir Greenpeace qui va rentrer sur une centrale nucléaire pour montrer que ceci, cela. Respecter les conséquences juridiques de son acte, donc très concrètement, aller en prison après avoir désobéi. Mais ça paraît absurde. Si vous désobéissez à une loi parce qu'elle est raciste, par exemple, et qu'après on vous condamne à aller en prison, bah, cette condamnation par le juge, elle est raciste elle aussi. Donc en vertu de quel argument, de quel principe il faudrait respecter et aller en prison? Si vous allez en prison, éventuellement, ça peut se justifier pour des raisons tactiques, parce que vous allez mettre en scène votre innocence, vous allez vous positionner, vous construire une image de martyr pour amener les autres à descendre massivement dans la rue. Ça peut se justifier, mais justification tactique de l'incarcération qu'on trouve chez Martin Luther King, par exemple, c'est pas du tout la même justification déontologique que celle qu'avance Rawls. On pourrait continuer assez longtemps. Mais alors finalement, une fois que je me suis dit, je suis pas prêt à endosser cette conception libérale de la désobéissance civile, j'ai essayé de comprendre vraiment quel était fondamentalement mon point de désaccord avec cette approche. Et j'en suis venu à l'idée que, en fait, ce que font Rawls, Habermas, Dworkin et quelques autres, pour eux, si vous voulez, la légitimité démocratique de la désobéissance civile, c'est le point d'arrivée de leur réflexion. Ils essayent de montrer, contre eux, tous ceux qui accusent les désobéissants, ils essayent de montrer que non, la désobéissance est compatible, sous certaines conditions, avec la démocratie. Et moi, en fait, en essayant de faire le point, je me suis dit, mais mon idée, qui est l'idée, en fait, qui est présente chez Gandhi et Martin Luther King, c'est que la légitimité démocratique de la désobéissance civile, c'est notre point de départ, en fait. C'est pas une question pour Gandhi et Martin Luther King. Ils cherchent pas à justifier la désobéissance civile, parce que pour eux, c'est évident que la désobéissance est légitime. Elle est légitime parce qu'ils sont dans des régimes fondamentalement oppressifs, ils sont pas dans des démocraties. Ils se posent pas cette question. Il n'y a pas de justification de la désobéissance civile chez Gandhi et Martin Luther King durant les premières années de leur engagement politique, parce que c'est pas ça leur problème. Leur problème, c'est autre chose. Ils vont commencer à la justifier que quand ils vont être mis en prison, qu'ils vont avoir un peu de temps et qu'ils vont se dire « Ah oui, on a quand même beaucoup de détracteurs dans les médias, dans la sphère politique, etc. » Peut-être que ça vaut le coup de faire un texte qui explique à ceux qui seraient dans le doute, qui seraient un peu entre deux, les indécis, hein, comme on les appelle lors des phases électorales, peut-être que ça vaut le coup d'écrire des textes pour expliquer aux indécis pourquoi notre action est justifiée. Mais en soi, c'est pas cette question-là de la légitimité, ils se la posent parce que les juges, parce que la société les oblige à se la poser. Mais c'est pas leur question. La légitimité. Donc, si vous voulez, ce qui les intéresse, c'est pas ce qui vient en amont de la désobéissance civile, mais c'est ce qu'il y a en aval. C'est pas le fondement éthique de la désobéissance civile, mais c'est ses potentialités politiques. Ce qui les intéresse, c'est pas ce qui autorise à désobéir, mais c'est ce que désobéir autorise, ce que désobéir produit qu'il n'y avait pas sans la désobéissance. Voilà, donc on passe... Une dernière façon de le dire, c'est on passe de la question du pourquoi, en un seul mot, pourquoi désobéir? Ça, c'est la question que le juge, le policier pose au désobéissant. Mais pourquoi vous désobéissez? Donnez-moi une raison j'amenuise votre peine, que je tolère éventuellement vos actions. Pourquoi est-ce que vous désobéissez? Donnez-moi une raison. La question des désobéissants, c'est pas celle-là. C'est pourquoi, en deux mots, pourquoi est-ce qu'on désobéit? Pour aller vers quoi est-ce qu'on désobéit? Et c'est ça maintenant que j'aimerais aborder. Pourquoi est-ce qu'on désobéit? Qu'est-ce que ça produit comme effet politique de désobéir? Voilà. Qu'est-ce qui sort de la désobéissance? Et alors là, il y a deux réponses qui sont toutes les deux justes. C'est qu'on désobéit pour qu'advienne une société plus juste et on désobéit pour qu'elle devienne une société plus libre ou plus autonome. Et ce que je voudrais dire, c'est que le fait que la désobéissance vise une société plus juste, ça, c'est vrai, c'est entièrement vrai. On désobéit à des lois qu'on juge injustes, voilà, c'est incontestable. Mais ça, c'est un élément qui a été dit, redit, pour le coup, par tout le monde, qui fait l'unanimité. Voilà, on désobéit à une loi parce qu'elle est injuste, parce que son contenu est injuste. Ça a été dit et redit, c'est une évidence. Il y a une seconde raison de désobéir qui, pour moi, est passée très largement inaperçu et que j'ai essayé de mettre en avant dans mon ouvrage, c'est qu'on désobéit aussi pour aller vers une société plus libre ou plus autonome. La notion d'autonomie me semble justement plus précise. Je vais essayer d'expliquer ça. Alors, j'ai conscience que là, ça reste très abstrait ce que je suis en train de dire. Je vais essayer de rendre ça plus palpable. En fait, quand on désobéit à une loi, il me semble qu'on affirme deux choses à la fois. Alors, je suis à un niveau très conceptuel, mais où qu'on critique deux choses dans cette loi à la fois. On critique son contenu, ça c'est ce que tout le monde dit, qui est connu. On critique son contenu, qu'on juge injuste. Voilà, par exemple, le système Jim Crow aux États-Unis, c'est injuste puisque ça crée deux régimes juridiques, deux types d'établissements scolaires, hospitaliers, de cantines, etc. Pour les blancs et pour les noirs. Donc quand on désobéit, on critique le contenu de la loi qui est injuste, mais on critique aussi, et ça c'est la deuxième chose que j'ai essayé de mettre en avant, on critique pas seulement le contenu de la loi, on critique le statut de la loi. Ce qu'on essaye de faire, c'est de désacraliser la loi. C'est de montrer que la loi, qui était jusqu'alors présentée comme une chose intangible, immuable, sacrée, surtout, n'essayez pas de modifier la loi ségrégationniste, ou pour un exemple plus contemporain, vous prenez Jean-Claude Juncker, donc président de la Commission européenne, on est début 2015, c'est le moment où la Troïka impose le mémorandum à la Grèce, Jean-Claude Juncker affirme « il n'y a pas de choix démocratique possible en dehors des traités européens ». Qu'est-ce qui est en jeu là-dedans et qu'est-ce qui est en jeu quand Martin Luther King rentre dans une bibliothèque ségrégée ? C'est la même chose avec ces deux exemples. Ce qui est en jeu, c'est que l'austérité imposée comme une humiliation aux Grecs, c'est injuste, que le racisme, c'est injuste. Mais il y a un deuxième élément là-dedans, c'est que qui est contesté, c'est le côté sacré des traités européens. Ces traités européens qui planent comme ça, qui sont inatteignables, qui sont hors de portée, qui planent au-dessus des choix démocratiques. Et c'est cette législation ségrégationniste qui... Et là, il faut aller voir comment les ségrégationnistes justifient leur loi. Comment ils la justifient ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils la sacralisent, cette loi, en disant, mais s'il y a deux régimes juridiques pour les blancs et les noirs, c'est parce que, d'une part, c'est écrit dans la Bible... C'est Dieu qui l'a voulu, donc les humains, vous pouvez vous agiter dans tous les sens, faire ce que vous voulez, ça ne changera pas, c'est de la volonté divine, cette chose-là. Et par ailleurs, ce n'est pas simplement écrit dans la Bible, c'est écrit dans le génome humain, c'est génétique, il y a une supériorité de la race blanche par rapport à la race noire. Donc là, c'est vraiment prégnant, ça veut dire quoi que cette loi ségrégationniste, elle est injuste, mais elle est sacrée aussi, c'est intouchable, c'est d'ordre théologique, et c'est d'ordre... Donc ça n'aurait pas de sens et d'ordre... biologique, génétique, ça n'aurait pas de sens de faire quelque chose contre ça. Et voilà, et je crois que ça, c'est à mon sens un geste vraiment important chez les désobéissances civiles qui n'a pas été assez mis en avant. C'est la façon dont ils vont essayer de mettre en avant le caractère sacré des lois, et justement pour les désacraliser, pour montrer que les lois ne viennent pas d'une instance européenne inatteignable, d'une volonté divine, d'impératif de la compétitivité, qui là aussi serait absolument inquestionnable. Il y a quelque chose il y a une visée vers l'autonomie dans la désobéissance civile. Et j'insiste sur un point, c'est cette notion d'autonomie, je voudrais peut-être la définir un instant, parce que c'est important pour bien se comprendre. Je l'emprunte telle quelle à un philosophe, Cornelius Castoriadis, qui différencier dans l'histoire deux types de sociétés, ce qu'il appelle les sociétés autonomes et ce qu'il appelle les sociétés hétéronomes. Cornelius Castoriadis dit « Toute loi, dans toute société humaine, est une construction humaine. Toute loi est instituée par les hommes eux-mêmes, par la société elle-même. En fait, toute loi est auto-instituée. Même quand les racistes vous disent... Les racistes vous disent que non, vous disent non, la loi, elle est comme ça, c'est juste une traduction de la volonté divine ou de la réalité génétique. Mais non, en fait. La loi est comme ça parce qu'à un moment, la société américaine, sous l'emprise d'une idéologie raciste, a décidé que la loi serait comme ça. C'est une décision, c'est un acte humain. Et Castoriadis dit, par rapport à ce fait incontestable qui est que toute loi est une construction humaine, il y a deux possibilités pour une société. Alors, il schématise à nouveau, évidemment, c'est l'idéal type, mais il y a deux possibilités. Soit on dénie le caractère auto-institué des lois en... expliquant que la loi est le dérivé de, voilà, des dieux, de la science, de la raison avec un grand R, des lois de l'histoire, de la race. Enfin, vous pouvez mettre toutes ces instances-là comme ça avec des majuscules. Vous pouvez expliquer que la loi dérive de ces instances hypostasiées, vraiment transcendantales. Soit vous reconnaissez que la loi est une activité est le fruit d'une activité humaine. Et donc, si vous voulez, voilà, c'est ça. C'est pour savoir si une société est autonome ou hétéronome, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment l'imaginaire de cette société, la représentation qu'elle a d'elle-même. Est-ce qu'elle pose ses lois de manière lucide et réfléchie, ou est-ce qu'elle pose ses lois en niant qu'elle en est son auteur? Et il me semble qu'encore aujourd'hui, dans notre société, il y a des formes d'hétéronomie qui subsistent. Quand on invoque comme ça les impératifs économiques, la santé des marchés, les traités européens, c'est des instances... alors, évidemment, c'est des instances peut-être un peu moins transcendantes que ce qu'était par le passé la volonté divine ou la race chez Gobineau. Mais c'est des instances hétéronomes qui sont qu'on place hors de portée de la société humaine. Et la désobéissance civile, elle vise à... C'est une lutte, en fait, contre ces formes d'hétéronomie. Alors, il me reste 5 minutes ou pas ? Je voudrais conclure peut-être en continuant à tirer un petit peu ce fil de l'autonomie, pour dire, donc, si je me suis bien fait comprendre, la désobéissance civile, du coup, arrivée à ce point de ma réflexion, elle ne s'oppose pas à la législation, elle s'oppose au légalisme. Voilà. Elle s'oppose à l'idée qu'il faudrait obéir de manière aveugle aux lois, parce qu'en fait, on n'a pas d'autre choix. Donc c'est pour ça que je disais au début, la désobéissance civile, c'est pas contre la loi, c'est pas contre la législation, c'est pas contre... Enfin, les désobéissances civiles reconnaissent que toute société a besoin de lois pour exister. Mais c'est contre le légalisme. La désobéissance civile, elle n'est pas illégale. Elle est illégaliste, si vous voulez. Bon, illégaliste, c'est très peu élégant comme terme, donc moi je l'ai appelé extra-légale. Elle n'est pas contre la loi, elle est en dehors de la loi, mais dans un rapport de va-et-vient, si vous voulez, vis-à-vis de la loi. Il s'agit de la contester, mais pour y revenir, parce qu'elle aura été transformée, puis éventuellement de se laisser la possibilité de la recontester, parce qu'aucune loi n'est parfaite. Il y a des lois qui sont plus justes que d'autres, il y a des sociétés plus justes que d'autres, mais aucune société n'est idéale, aucun ordre juridique ne peut être déclaré comme entièrement abouti, de sorte qu'il faudrait exiger de ces sujets que désormais ils obéissent point barre et de manière définitive. Donc c'est ça l'autonomie. Et il me semble que c'est ça la visée de la désobéissance civile. Alors, je ne dis pas que tous les mouvements de désobéissance civile vont dans ce sens-là. Il y a des mouvements de désobéissance civile, justement, qui ont un substrat très religieux, et donc, en ce sens-là, qui rentrent plutôt dans une perspective hétéronome. Mais, bon, vous aurez compris que je suis là dans un propos un peu philosophique. Et alors, je voudrais conclure grâce à cette idée d'autonomie, je voudrais vous proposer une distinction conceptuelle, c'est là-dessus que je m'arrêterai, entre donc, ce qu'est la désobéissance et ce que sont l'anti-obéissance et l'alter-obéissance. Voilà, je voudrais proposer trois figures, si vous voulez, qui, à première vue, peuvent paraître assez proches, mais avec l'idée, si vous voulez, au final, que seule la désobéissance est vraiment une action visant l'autonomie, alors que les deux autres, l'anti-obéissance et l'alter-obéissance, reconduiraient des formes d'hétéronomie. Alors, pour comprendre ce que sont l'anti, l'alter et la désobéissance, il faut partir d'abord de ce qu'est l'obéissance servile. Donc ça, c'est la position que j'exposais au tout début de mon propos des conservateurs. C'est voilà, il faut obéir de manière aveugle, se soumettre de manière inconditionnelle aux lois étatiques. Ça, c'est la position de départ qui est soutenue par les partisans de l'obéissance servile. Face à ça, il y a donc trois réactions possibles. Et ça, c'est une forme de sacralisation de la loi. Hein. Cette obéissance servile, c'est voilà, on sacralise les lois de l'État, celles qui ont été votées là, comme ça par notre Parlement, on les sacralise, il faut absolument y obéir, sinon c'est le chaos, etc. Mieux vaut une injustice qu'un désordre, hein. C'est Goethe qui met ça dans la bouche d'un de ses personnages. Voilà. C'est une forme de sacralisation des lois de l'État. Il y a une première façon de s'opposer à l'obéissance servile, c'est ce que j'appelle l'anti-obéissance. Et alors là, c'est ceux qui, au lieu d'obéir à toutes les lois, vont appeler à désobéir à toutes les lois, voilà. à défaire toutes les institutions. Mais eux, ils restent. Ce que je dis là, il y a des gens aujourd'hui qui soutiennent ça. Si vous prenez les textes du comité invisible, par exemple, il y a toute une théorie chez eux qui consiste à dire que une institution, c'est nécessairement quelque chose d'oppressif qui annihile la vie qui anime spontanément les individus. Il y a chez eux l'idée que les lois, c'est aussi, mais quelles que soient les lois, il y a une contestation de la loi en soi, pas des lois injustes, mais il y a une contestation de la loi en soi, parce que la loi, c'est quelque chose, ils disent, c'est leur terme, pour les angoissés, pour les anxieux, pour les procéduriers. Ce qu'il faut, c'est simplement laisser se déployer la spontanéité des rapports sociaux, des désirs et des énergies qui nous traversent, donc contre toute loi, parce que la loi voilà, est mortifère. Et donc, deux remarques par rapport à cette position que moi j'appelle anti-obéissance, donc qui consiste à remplacer l'obéissance systématique par un refus systématique d'obéir. J'ai deux remarques par rapport à ça. D'abord, c'est une posture qui, comme toute posture sceptique, se contredit elle-même, puisque finalement, en disant il faut toujours désobéir, on est en train d'obéir à une loi qui dit qu'il faut toujours désobéir. Donc, c'est le problème de tout scepticisme, et son caractère auto-réfutant. Et deuxièmement, c'est cette posture anti-obéissance, c'est aussi une forme de sacralisation. Sacralisation de quoi ? Précisément de cette loi qui dit qu'il faut systématiquement désobéir aux institutions et aux lois. Voilà. La deuxième posture possible, la deuxième réaction face à l'obéissance servile, c'est ce que j'appelle l'alter-obéissance. Donc là, on va appeler à désobéir aux lois de l'État, mais, alors là, ayez en tête le cas des commandos pro-vie qui, en France, vont, donc souvent, c'est des intégristes catholiques, mais donc qui vont aller devant des centres d'interruption volontaire de grossesse pour empêcher les femmes enceintes d'y pénétrer, qui vont même parfois s'introduire dans les locaux pour casser du matériel. Aux États-Unis, c'est aller jusqu'à des attentats contre le personnel médical. Pensez à ce type d'action et regardez, c'est ce que je suis allé faire, comment est-ce qu'ils justifient leurs actions de désobéissance ? Eh bien, ils la justifient en disant il y a un droit à la vie qui est un droit sacré. Pour le coup, ils l'écrivent eux aussi noir sur blanc. La vie est quelque chose de sacré. Le droit à la vie, y compris pour des fœtus, voire même des embryons, c'est quelque chose de sacré. Et donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que ces personnes qui... Pourquoi je dis qu'elles sont dans l'alter désobéissance ? Parce que certes, elles désobéissent aux lois de l'État qui permettent aux femmes de disposer de leur corps, mais ils désobéissent afin d'obéir encore plus et encore mieux à une autre loi qui est, en l'occurrence, une loi religieuse qui dit que la vie est quelque chose de sacré. Donc là, c'est à nouveau, on est dans de la... comme dans l'anti-obéissance, on est en apparence dans un geste désobéissant, mais en fait, dans le fond, on retombe dans une forme de sacralité ou de sacralisation de la loi, et là, la loi sacralisée, c'est une loi religieuse. Et voilà, il me semble que seule la désobéissance civile, idéalisée, telle que je l'idéalise dans mon propos, mais tout ça, c'est pour essayer de donner des concepts qui, après, permettent de penser les phénomènes qui se déploient sous nos yeux, seule la désobéissance civile... qui est donc, si on m'a bien compris, toujours aussi une obéissance civile, hein, parce que c'est pas désobéir tout le temps et à tout prix, ça c'est de l'anti-obéissance, mais seule la désobéissance, qui est aussi une forme d'obéissance, en fait, en fonction du contexte et à chaque fois en connaissance de cause, permet à une société d'entretenir un rapport d'autonomie avec ses lois. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une société est autonome, entretient un rapport autonome à ses lois ? Eh bien, ça veut dire qu'on tient ensemble deux affirmations. D'abord, deux affirmations qui sont en tension, hein, mais qu'il faut tant bien que mal tenir ensemble. D'abord, qu'aucune société ne saurait exister sans institution. Et en même temps, que toute institution particulière est contestable, est en droit contestable. Donc, si vous voulez, d'un côté, il y a nécessité d'avoir des lois, mais il y a contingence de toute loi prise isolément. Et donc, ça a comme conséquence, sur ce qu'est la démocratie, ça a comme conséquence qu'on refuse d'identifier la démocratie à un assemblage institutionnel définitivement figé. Bon, par exemple, Rawls, dans la théorie de la justice, il explique un petit peu ce que c'est qu'un régime démocratique et il dit que les lois sont fixées une fois pour toutes dans un tel régime. Donc c'est le refus de cette position-là, mais c'est le refus de la position inverse qui assimile la démocratie à une espèce de d'effervescence permanente, de frénésie contestataire et destructrice, frénésie qui refuse toute possibilité de stabiliser et de faire durer les rapports sociaux sous une forme ou sous une autre. Donc ça ne nous dit pas ce qu'est la démocratie, mais ça nous dit ce qu'elle n'est pas. C'est déjà un premier pas. Je vous remercie de votre attention.